بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Alors mes chers frères, tout d'abord nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir, après un mois d'interruption à peu près, de reprendre les programmes de tafsir. Donc ça fait à cause de, alhamdulillah, quelques petits problèmes de santé qu'on a dû interrompre pendant 3 ou 4 semaines les programmes de tafsir. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la santé, d'accorder la shifa kamila à toutes les personnes qui sont souffrantes. Alors, juste pour récapituler un petit peu ce qu'on avait fait dans le surat al-Rajia, on rappelle qu'au départ, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'une manière générale à chaque musulman en interpellant les musulmans sur l'importance du jour du jugement dernier, le jour du grand rassemblement lorsque chaque personne devra se présenter devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal pour répondre de sa vie. Comment a-t-il passé sa vie? Comment a-t-il consacré son temps? Comment a-t-il dépensé son argent? La consécration, le but pour lequel nous avons été créés, le ibadat, il arrivera un jour où nous aurons à rendre compte auprès d'Allah Azza wa Jal de ce culte. Est-ce que nous avons réservé le culte pour Allah? Est-ce que le culte a été fait pour quelqu'un d'autre? Ou alors nous avons fait abstraction totalement du ibadat pour nous consacrer à autre chose, la vie mondaine, les plaisirs ou autre chose. La deuxième partie, il y a la description de la première catégorie de personnes. C'est les gens de gauche, les gens qui sont destinés pour le feu de l'enfer. Et ça, on avait plus ou moins développé pendant un ou deux séances sur Surat al-Rashia. On avait expliqué qu'Allah Azza wa Jal décrit ces personnes. Wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah. On parle de visages humiliés, préoccupés, harassés, des gens qui brûlent dans un feu ardent, abreuvés d'une source bouillante. On avait expliqué également que ces gens n'auront rien pour se nourrir. Il y aura la faim, bien sûr, mais lorsqu'Allah Ta'ala donnera à ces gens à manger, cette nourriture également sera un adab, sera une punition en lui-même. Également, lorsque ces gens ont soif, Allah Ta'ala leur donnera de l'eau, mais ce ne sera pas une eau qu'ils vont boire, qui vont apaiser leur soif, mais ce sera une source bouillante qui, juste quand cette source s'approchera des visages, la chaleur de cette eau, de cette source du Jahannam sera telle que le visage de ces gens de l'enfer tombera donc en lambeaux, qu'Allah nous protège. Donc c'était à peu près là où on s'était arrêté, la description des gens qui seront dans l'enfer, qui sont destinés pour l'enfer. Comment seront leurs attentes jusqu'au moment où Allah Ta'ala les enverra dans l'enfer? Et lorsqu'ils y seront, comment sera, brièvement, description très brève, comment sera le châtiment et quelle sera la nourriture et quelle sera la boisson des Ahlunnam, des gens de l'enfer, qu'Allah nous protège? Et on avait expliqué, si je ne me souviens bien, la dernière fois, qu'il est important de temps en temps de parler du paradis de l'enfer. Il est important, même si ce sont là des sujets qui nous paraissent être un peu éloignés ou un peu étrangers. Parce que lorsqu'on parle du monde de l'irréel, lorsqu'on parle du ilm al-ghaib, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas concevoir, on peut se dire qu'autant parler de choses qui nous concernent directement. Il faut parler de la salat, il faut parler du dhikrullah, il faut parler du respect des parents, il faut parler des jeunes qui vont en boîte, qui font ci, qui font ça, qui boivent. Je suis entièrement d'accord. Mais lorsqu'on parle du paradis et de l'enfer, ça c'est l'aboutissement de tout ça. Si on explique aux gens qu'il faut faire la salat, on explique aux gens qu'il faut s'abstenir de ce qu'Allah a rendu d'ici. Il faut respecter ses parents. Il faut agir correctement avec les voisins. Il faut. Il faut bien que les gens ils voient qu'au bout, je ne dis pas que c'est la carotte, il faut tendre la carotte au bout du bâton, non. Mais il faut bien que les gens ils voient que si réellement j'obéis aux ordres d'Allah, je fais telle chose, en finalité Allah m'accordera telle chose, telle récompense. Lorsqu'on décrit le paradis, lorsqu'on essaie de concevoir quels sont les bienfaits du paradis, ben ça c'est mimbab ut-targhib, c'est un encouragement. Cela encourage la personne
à accomplir les bonnes actions, même si elles sont parfois difficiles, à se dépasser pour faire encore plus de bonnes actions, avec l'objectif de rechercher, bien sûr, le contentement d'Allah Azza wa Jal, mais également d'obtenir ce paradis. Parce que si on dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que vous aurez si vous le faites. Et si un jour il ne fait pas, c'est quoi le problème? D'accord? C'est comme si une personne il signe un contrat, un travail, un CDD, un CDI ou je ne sais quoi, le patron l'explique que vous aurez tel avantage, un salaire brut de 1000, je ne sais pas, 1500 ou 2000 euros par mois, où vous aurez un chèque déjeuner par jour, vous aurez une compensation pour votre frais de déplacement, vous aurez telle chose et tout, ben, ça s'encourage à personne. Pareil, le musulman doit, en même temps, on l'explique quelles sont les récompenses, quels sont les devoirs du musulman, mais en même temps expliquer qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a réservé pour ce mu'min muttaqi, pour ce musulman pieux, serviteur d'Allah, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a réservé pour cette personne. De même, il est important de temps en temps, et ça les gens ils n'aiment pas en général, de parler, de décrire le jahannam, l'enfer. Les gens disent, oui, mais le prophète a dit, bashirou, wa la tunaffirou, wa yassirou, wa la tu'assirou, annoncez des bonnes nouvelles, facilitez les choses, ne compliquez pas les choses entièrement, d'accord. Mais de temps en temps, il est important de faire ce qu'on appelle le tarhib aussi. Mettre en garde, attention, quand on dit que telle chose est haram, telle chose est mauvaise, il y a des conséquences. Il faut bien comprendre que dans le jahannam, il y aura telle chose, le jour où Malik al-Maud reprend l'âme, si on n'a pas vécu comme Allah nous l'avait demandé, ben Malik al-Maud, le Malik al-Maud qui prend l'âme du pécheur, et le Malik al-Maud qui prend l'âme du frère de ce pécheur qui lui était un homme pieux. C'est pas le même Malik al-Maud, c'est le même Malik al-Maud bien sûr, mais c'est pas la même façon, c'est pas la même description, c'est pas avec la même délicatesse, c'est pas dans le même contexte. Il est extrêmement important de parler du tarhib aussi, des mises en garde, quelles sont les conséquences des péchés, quels sont les châtiments qu'Allah Azza wa Jal, quels sont les supplices qu'Allah Ta'ala a créés pour les personnes qui désobéissent à ses ordres et qui vivent comme leur hawa, leur nafs, comme leur instinct les dit, qu'Allah nous protège. Donc il nous reste maintenant, enfin pas il nous reste, la troisième partie, c'est le verset qu'on a lu il y a quelques instants, « Wujuhun yawma idhin na'ima ». Alors dans cette troisième partie, Allah Azza wa Jal décrit les gens qui vont aller au paradis. Et ensuite, Allah Azza wa Jal décrit également la situation, la joie, la paix intérieure qui habite le cœur de ces jannatis. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah fasse partie de ces personnes-là, inshallah. Il y a la description du paradis, description des bienfaits, mais il y a également la description de la quiétude qu'il y a dans le cœur. Pardon. Parce que les deux ne vont pas de pair. Il ne faut pas croire que si le contexte est favorable, le cœur est apaisé. C'est faux, ça. Il y a des gens qui ont tout. Tout. L'honneur, les richesses, les biens, etc. Mais ils n'ont, dans ce dunya, bien sûr, mais ils n'ont pas la tranquillité du cœur. Vous comprenez bien. Ce n'est pas parce qu'on est dans une maison qui est plaquée or, avec des rubis, avec une voiture, je ne sais quoi, Wallahu a'lam, que forcément, dans mon cœur, j'aurai la tranquillité. La plupart du temps, c'est le contraire. On a déjà expliqué mille et une fois, les grands footballeurs, les stars, les grands je ne sais quoi, qui sont riches, qui ont tout, à moi, gloire et beauté, tout ce qu'il faut, mais ils se droguent, ils font n'importe quoi, parce qu'ils ne trouvent pas la quiétude, le format nina de le cœur. Format nina qui ne peut habiter que le cœur d'un mu'min, que le cœur d'une personne dans lequel Allah, il met la sakina, la quiétude. Donc, il y a description en même temps des bienfaits apparents, extérieurs du paradis, et il y a en même temps, on fait allusion dans un verset, à la tranquillité des gens du paradis. La quiétude qui habite leur cœur. L'entente qu'il y a entre ces gens. La cohabitation facile qu'il y a entre les gens du paradis. C'est clair que dans le paradis, alhamdoulilah, on n'est pas comme dans des HLM. C'est pas que dans le paradis, c'est des petits appartements, non. Une personne, il a le minimum, il a l'équivalent de je ne sais pas combien de fois ce dunya, et tout ce qu'il contient. Au minimum, ça c'est la dernière personne qui entre au paradis. Donc sur le plan de surface, superficie, c'est clair. Hein, on n'aura pas un voisin à tous les mètres carrés et tout, on ne va pas avoir les mêmes têtes, ça c'est clair. Mais mis à part ça, parce qu'il y a des moments également où les gens du paradis se rencontrent. Dans des marchés le jour du vendredi, des sourds, des marchés où les gens du paradis se rencontrent et là, ils ont l'occasion de discuter, de se rappeler des joies de ce dunya, etc., etc. Mais la grande différence, on entre en entrée dans les détails, alors qu'il faut suivre méthodologiquement, en plus du fait qu'Allah Ta'ala comblera au maximum ces gens qui habiteront dans le paradis, à un niveau qu'on ne peut même pas concevoir, il y aura également la bonté dans les cœurs. Bien que quand une personne entre dans le paradis, tout ce qu'il peut y avoir comme défaut, qui sont souvent humains, tout ce qu'il peut y avoir comme défaut dans le cœur de l'homme est retiré par Allah. Parfois il y a des mauvais côtés de notre personnalité, parfois c'est inné, parfois c'est acquis, mais qui sont bien là. D'accord ? En cohabitant avec une personne, ou en travaillant avec une personne, ou alors en voyageant, ça on en a vu, en voyageant avec une personne, là on se rend compte, tiens, vous allez en bête comme ça, donc, tu ne connais pas moi tout le temps, Ali, Kati, c'est un bon monde, là, d'accord ? Et il y a la jalousie, il y a la rancœur, il y a la rancune, il y a un peu parfois de fierté, d'orgueil, etc., etc. Les péchés qu'on avait expliqués un petit peu à la fin du bayan de ce matin, de Jum'a. Mais lorsque le musulman entre dans le paradis, « Wa naza'na ma fi qulubihim min ghill » tout ce qu'il y a de mauvais, les jeunes, etc., tout ça sera enlevé du cœur des gens. Vous avez juste à comprendre, on ne citera pas cet exemple, mais quand on parle des femmes du paradis, les Hurul Ain, ils disent autre madame ici sur Dunya, « Ah, là, on aura Hurul Ain, dis quoi Hurul Ain, à moi-même, les là. À moi, tout ça, il me fait quoi, tout le Hur, sorte là, parle pas de ça, il n'y a pas hadith sur Hurul Ain. » Oui, même Café Ta'ali, il ne veut pas entendre parler, parce que la femme, son cœur est habité par la jalousie, c'est quelque chose de normal. De même, entre les époux du prophète, il y avait de la... Enfin, la jalousie, c'est très péjoratif, mais il y avait une certaine concurrence, pour utiliser des termes beaucoup plus appropriés, respectueux envers Ummahat al-Mu'minin. C'est normal, ça fait partie de la nature de l'homme. Que ce soit sahaba, que ce soit homme au 21e, au 22e, ou quel que soit le siècle. Mais dans le Jannah, juste que vous compreniez, pour qu'on ait une idée, quand on parle de la notion de Hur al-Ain, et que l'épouse d'un homme sera la reine des Hur, on comprend bien que la jalousie qui habite le cœur des gens est jalousie qui parfois est justifiée. D'accord ? Parce que, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais moi je n'arrive pas à concevoir qu'un homme qui est en compagnie de son épouse, il va dans une soirée, une invitation, un autre monsieur, il vient, il fait la bise sur madame, il assise côté lit, il colle, met ta main sur ses épaules et tout. Mais ça c'est ajib, ça. Ça prouve vraiment qu'une personne qui n'a pas, on ne parle pas d'être possessif. Ça, il y a en arabe un terme qui s'appelle al-rira, de l'amour propre. L'amour propre, c'est qu'un homme ne peut pas laisser un autre homme approcher sa femme, faire la bise, mettre la main sur l'épaule, parler. Les animaux ne l'acceptent pas. Regardez un peu les documentaires animaliers, le lion est avec sa lionne, je ne sais quoi, un autre mâle s'approche, fait couler tout de suite. Bon, on n'a pas de comportement animal, nous sommes des gens, Inch'Allah, on vit dans une société, d'accord, mais ça prouve bien que nos valeurs ont changé. Parfois, on arrive à des niveaux, Allahu A'lam, si on doit envier ou prendre exemple sur les animaux, parfois, Allahu A'lam, dans la vie, on se dit, bref, qu'on comprenne bien que lorsque le musulman entre dans le paradis, en plus de jouir de tout ce qu'il y aura, tout ce qu'Allah a préparé et créé de ses propres mains, les cœurs seront purifiés. Il y aura une entente parfaite. Même si dans ce monde, je donne un exemple, j'ai toujours eu des embrouilles avec mon beau-frère, avec mon cousin, avec mon tonton, ou je ne sais quoi. Bon, mais dans le paradis, toutes ces petites querelles, toutes ces histoires passées, n'existeront plus. Les cœurs seront unis. Les mu'minines, ils seront dans le paradis comme des frères. Déjà, dans le dunya, ils sont comme des frères. Dans le paradis, c'est comme si ce sont des gens qui ont été récompensés de la meilleure des façons et les cœurs sont purs. Il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a rien de mazmoum, rien de mauvais. Alors, pour revenir au tafsir, wa wujuhun yawma'idhin na'ima. On n'a pas eu la traduction. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Contrairement à la première catégorie des gens, les gens qui sont destinés à l'enfer, c'était des visages humiliés, le zilla. L'humiliation habitait, l'humiliation se lisait sur le visage de ces gens alors qu'ils n'étaient même pas entrés dans le Jahannam. Et les gens qui sont maintenant destinés pour le paradis, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Et ça, c'est un verset, mes chers frères, qui est magnifique. Lisa'iha radiya. Et pourquoi ils ont le visage épanoui? Lisa'iha radiya. Des visages épanouis, contents de leurs efforts. As-sa'i. Je trouve que la traduction n'est pas à 100%, bon, chacun, hein. As-sa'i, c'est le chemin qu'on fait. Lisa'iha radiya. Ils sont satisfaits du chemin qu'ils ont fait. C'est des gens qui ont vécu dans l'obéissance d'Allah jusqu'à la mort. Et maintenant, quand ils sont morts, ils sont présentés auprès du tribunal d'Allah, ils voient qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a destiné pour eux. Et ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux forcément parce qu'ils sont en train de jouir d'une bénédiction, d'une rahma qui descend. Ils sont satisfaits. Ils savent qu'ils sont dans le vrai, que tous les efforts qu'ils ont faits, la vie qu'ils ont passée, je suis maintenant en train de récolter les fruits de ses efforts, les fruits de ses actions, les fruits de ses abstinences. Et c'est pour ce sari, pour ce chemin parcouru, qu'ils ont le visage épanoui. Mais ça, c'est magnifique, ça, mes chers frères. C'est ce qu'on appelle la consécration. Ce musulman est en train de goûter étape après étape. Il est en train de voir les futuhats d'Allah, l'aide d'Allah, la nusrat d'Allah, les récompenses d'Allah. Et cela a commencé, comme on a expliqué pour le serment avant la salatul jum'a, cela a commencé depuis le gharghara, depuis l'agonie. Lorsque l'âme quitte le corps, quand l'ange vient et annonce, on ne parle pas de malik al-maut, qu'on expliquait ce jum'a, lorsque l'ange annonce la bonne nouvelle à cette personne qu'Allah est satisfait de toi, là la personne, il ressent déjà de la joie. Et ce n'est pas une joie comparable à celle qu'on peut ressentir de ce dunya. Si on m'annonce une bonne nouvelle, voilà, votre patron a décidé d'augmenter, ou au lieu de tel salaire, vous avez 50% d'augmentation. Je suis content, alhamdulillah. On a dit que voilà, telle personne a fait une donation, il vous donne de l'argent, ou alors votre enfant qui était très malade, on a trouvé le remède, maintenant il va bien, je suis heureux. La joie qui habite le cœur de l'homme dans ce dunya, mais toute joie qui habite le cœur d'un être humain dans ce dunya est une joie éphémère. Mais les joies de l'au-delà, c'est un autre niveau. C'est là une joie qui est éternelle et qui progresse en permanence. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut concevoir. Et c'est là où les philosophes bloquent. Pour eux, la notion d'éternité et de le bonheur ne peut exister. Parce que l'homme finit par s'habituer au plaisir. Ça, on a déjà expliqué. Est-ce que les millionnaires sont heureux? Maintenant, quelqu'un, on parle de ça, c'est un exemple, hein, quelqu'un joue au millionnaire ou je ne sais pas quel jeu de hasard qu'Allah nous protège, hein, et que la personne a gagné 1 million. La personne ne dort plus un soir. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, c'est des découvertes en découvertes. La vie de château, manger du caviar ou je ne sais quoi, etc., des vêtements de luxe, des voyages, etc., etc. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, vous avez déjà claqué 10 millions d'euros. Il vous reste encore, je ne sais pas, 30 ou 40, je ne sais pas combien vous avez gagné. D'accord? Est-ce que cette personne découvre des plaisirs de jour en jour? Non! À un moment donné, on s'en lasse. Comme on a déjà expliqué, peut-être 4 fois, on a déjà dit dans ce majlis, si tous les jours vous mangez curry langouche, c'est une marque magnifique ça. Vous m'invitez à manger un curry langouche, je viens. Demain, vous m'invitez, moi, ça, bien encore langouche. Ça dit, ah, subhanallah. Soit il a grand cœur, soit il a grand poche, ou alors les deux. Mais en général, les deux ne marchent pas ensemble. Je viens le deuxième jour. Troisième jour, elle dit, l'estomac va prendre un coup, 3 jours langouche, les sueurs, pas de problème. Dit, à un moment donné, 5 jours, 6 jours, vous ne pouvez plus voir, malgré que c'est le plat le plus coûteux, le plus raffiné, que fris, voilà, haraj, s'il y en a qui aiment le caviar ou le foie gras ou je ne sais quoi, peu importe, ça veut dire, les plaisirs de ce monde sont éphémères, hein, et deuxièmement, on s'y habitue. Tandis que les plaisirs du akhirat de l'au-delà, ce sont des plaisirs, un, qui sont éternels, mais qui dit éternel ne dit pas lassitude. Parce que ce sont des plaisirs qui augmentent et qui varient. Mais augmenter jusqu'à quoi? Jusqu'à l'infini, mon frère. Parce que le qudrat d'Allah est infini. Donc les bienfaits qu'il donne, le premier jour on entre dans le paradis, Inch'Allah, Allah m'a dit, Allah minhum, et le 1000e jour où le mu'min sera dans le paradis, ce ne sont plus là les mêmes bienfaits. Ces bienfaits augmentent, hein, ils s'amplifient, ils s'embellissent de jour en jour. Il faut encore 5 minutes, Inch'Allah. On avait dit qu'on ne fera pas long. Donc, « وَوُجُوهُي وَيَوْمَ إِذِنْ نَعِمَ » Qu'est-ce qu'on disait là? Oui, subhanallah. Il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts. « فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ » On va aller à la traduction, mais on peut laisser le papier. « Dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante. Là, des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés et des tapis étalés. » Ce sont là quelques descriptions du paradis. Il y a d'autres versets du Coran qui expliquent mieux que ça les bienfaits du paradis. Mais là, ce sont là quelques 5 ou 6 versets qui expliquent comment sera le paradis. Alors, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi ces gens-là, ils sont épanouis? Bima a'atah Allah azza wa jal. Parce qu'ils voient qu'est-ce qu'Allah est en train de leur donner. Déjà, quand l'ange lui a annoncé la bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de toi, c'était le premier pas vers le contentement d'Allah. Et comme l'a dit Jum'a, c'était le premier message de l'au-delà. Le réseau est branché sur le akhir. En ce moment, notre réseau est branché sur le dunya. Qu'on est 3G ou en Amérique, il y a déjà 4G, il paraît. Peu importe, le réseau reste le réseau dunya. On comprend dunya, d'accord? Mais lorsque l'homme est dans le rara, dans l'agonie, il reçoit le premier message de l'au-delà. soit un message positif, Allahumma ja'alna minhum, soit un message qui va contre cette personne, sallallahu alayhi wa sallam, wa al-afiyah. Hada. Donc, déjà, cette personne goûte les premiers plaisirs. Et ensuite, lorsque l'ange de la mort vient, se présente à lui, il voit l'ange de la mort avec des habits de lumière, avec les bénédictions, les rahmans qui descendent, et le cortège de malaïka d'anges qui sont avec malaïka al-maut, etc., etc. Ces moments-là, cette vision est suffisante pour remplir le cœur de ce défunt de joie. Nous, on est en train de pleurer, « Ah, papa, mon papa, mon papa, mon grand-père, etc. » Lui, il n'a rien à faire, lui. Il ne connaît même plus où. Il ne veut même plus regarder et dire, « Fous la paix, là, depuis 50 ans, en train de pleurer, dégage. » Ma besoin, je retourne vers mon Rab, là. Je retourne vers mon Créateur. Je ne dis pas mes mots, mais c'est la réalité. Dans le hadith, il dit que lorsqu'une personne, un mu'min, on parle de l'homme pieux, lorsque le mu'min quitte ce dunya, il est de sa tombe, et lorsqu'il voit qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé, on n'avait pas eu le temps de réciter ce hadith ce matin, ce midi, hein, et lorsque le mu'min est dans sa tombe, matin et soir, on lui montre quelle est sa destination, qu'est-ce qu'Allah a réservé pour lui, c'est quoi sa place de le Jannah. Le matin, comme le soir, il voit, il a la vision de son palais, de son château, de ses terrains, de sa propriété qu'Allah Ta'ala lui a réservé de le Jannah. C'est-à-dire le cœur de ce mort, de ce défunt, est rempli de joie en permanence. D'accord ? Nous, on est en train de pleurer. Oui, le hadith, c'était quoi ? Lorsque ce musulman a vu qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé, et que, ça c'est hadith, ça, si on lui proposait de retourner dans ce monde, et on lui accordait tout ce dunya, toutes les richesses, jamais ce défunt ne serait d'accord pour retourner dans ce dunya. Même si c'est votre femme qui a vécu 40 ans avec vous, même si c'est votre papa, votre maman, même si c'est votre enfant, ou bien sûr, quelle que soit la personne qui vous est chère, qui vous aimez, mais lorsque le musulman a goûté ou a perçu qu'est-ce qu'Allah lui donne de l'akhirat, on lui donne ce dunya en richesse. On lui redonne sa famille, on retourne avec Banna, jamais il ne signerait, jamais il ne voudrait retourner. Parce que lorsque le mu'min, il met le premier pied dans le ilm de l'alam al-ghaib, dans le monde de l'invisible, où il reçoit ses récompenses, il voit qu'est-ce que sa vie lui a apporté. Son passé, sa vie, ses 50 ans de namaz, ses 50 ans où il s'est abstenu de l'alcool, où il s'est abstenu d'aller dans les endroits haram, etc., etc. Il est en train de récolter et il sait que d'étape en étape, les récompenses seront encore plus grandes. Donc ça, c'est la situation de cette personne, pourquoi cette personne a le visage épanoui, contrairement à ces autres personnes qui ont les visages harassés. Il dit également, 45, on s'arrêtera à 50, Inch'Allah. On est à combien de minutes là? 22. Voilà, alhamdulillah. Il dit que lorsque ce musulman est dans la tombe, yuftahu lahu babun ila al-jannah, fayatihi min ruhiha wa na'imiha. Maintenant, le musulman est posé, là on est en train de faire par étapes. Lorsqu'il est posé déjà dans sa tombe, hein, il y avait une fenêtre du paradis qui était ouverte et il recevait l'air, le vent, le hawa, le vent qui venait du paradis et les bienfaits du paradis. Donc, cette personne est heureuse par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans ce monde et elle est en train de récolter tant concernant l'accomplissement des actions, même si c'était parfois difficile de se réveiller pour Fajr, venir à Fajr en Djamma, etc., etc., tout comme l'éloignement du haram, parce que ça marche ensemble. On ne saura être un vrai musulman, on ne saura être un mu'min, tant qu'on ne joindra pas les deux choses. Si je fais que beaucoup de bonnes actions, là on a fait un programme, on a des récompenses, oui ou non, nos péchés sont effacés, Inch'Allah, on a fait déjà la prière en congrégation en Djamma. Je retourne chez moi, je vais, allez, on passe à l'étape 3h du matin, je vais me réveiller, je vais faire tahajjud. Qiyamul layl jusqu'à Salatul Fajr. Salatul Fajr, je vais faire en Jamaat, premier saf. Après Salatul Fajr, je vais lire le Coran, je vais faire Zikrullah, je vais faire le Shurur, je vais faire le Dua, et puis je vais travailler. C'est excellent ça. Qui c'est qui le fait? Moi, je ne le fais pas, qu'Allah me pardonne. Mais ceux qui le font, Alhamdulillah, c'est adib ce qu'ils ont comme récompense. C'est bien, c'est pas bien? Oui, c'est bien. Maintenant, là où j'ai fait exprès de ne pas citer, c'est entre mon retour à la maison et 3h du matin. Qu'est-ce que je fais? Si en plus de faire ces bonnes actions, je fais ces bonnes actions, mais entre 23h, c'est pas comme 24h qu'on a, on a les événements où il y a entre 23h et 3h du matin, je bois,
quoi.
Je regarde la télé n'importe quoi. Je vais voir, je fais le zina ou autre chose, et puis, etc. Et puis, arrivé à la maison, je prends mon roussin, je demande à Allah Tawba et tout, et puis je fais ta'adud. Est-ce que je suis un bon musulman, mu'min? Non. Si, on avait, en zappant ce qui s'est passé en 23h, 3h du matin, oui, je suis un musulman exemplaire. Mais là où je n'ai pas compris, c'est qu'Allah n'attend pas de moi que des bonnes actions. Allah attend de moi également que je m'éloigne du haram. Et dans l'autre cas, c'est pareil, mais l'autre cas est plus rare. Une personne qui s'abstient de tout haram et qui ne fait pas sa salade, c'est bien, il s'est éloigné du haram, mais le fait de ne pas faire ce qu'Allah a demandé, il est en quoi là? Colère d'Allah. Et ça, c'est plus rare. L'autre cas de figure, malheureusement, est plus répandu, et ça, c'est un classico, comme on dit. C'est un piège de shaitan. Il nous fait comprendre que, ah ouais, bon, musulman, on fait namaz, garde là-bas, ou fait toute sainte namaz, on fait tant, lit maintenant, à où, à fond. Ben, je vous sors un coup de temps, là, écoute. C'est pas ça, c'est en islam, ça, au trap, son main, ses bisous et tout. C'est pas grand chose, ça. Eh, mi sort jamad, mi fait namaz, ça. Et Allah, il pardonne. L'autre, Al-Bougla, lui, non, Ali, c'est un imbécile. Il fait comme moi, mais il fait pas namaz, il fait n'importe quoi, il vient pas à la mosquée, rien, maintenant. Alors, on a l'impression, Shaitan, il dit que, ah, ou casse pas, t'es tout. Dit, on voit pas Ben Hadid, dit, Allah, il pardonne les péchés entre chaque namaz, chaque vous. Oui, mais attends, mais les péchés qu'on a fait comme ça. Et si je prémédite, je dis, mais ça fait ça. Et après, elle pardonne à moi, parce que comme ça fait ça, je suis un expert comptable. Expert comptable. Je comptabilise tel péché je fais là, mais tel namaz permettra d'annuler ce péché. Donc, c'est bon, le compte est bon. En finalité, le bilan est positif. Ça ne marche pas comme ça, mes chers frères. Si ça marchait comme ça, c'est bon. On peut frauder, comme on fraude le fisc et autre chose. Mais avec Allah Azza wa Jalla, on a kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu. Ce sont les meilleurs experts comptables et ils savent ce qu'on fait. Et Allah est celui qui est au-dessus de nous et qui sait ce qu'il y a dans. Donc, en résumé, on ne va pas faire plus long que ça. Allah attend de moi que j'accomplisse ces bonnes actions, mais en même temps que je m'abstiens de ce qu'Allah a rendu haram. Parce que ce n'est pas compliqué, mes chers frères. Il y a pas, vous voyez, il y a deux parties là. Il y a Wujuh Yawmaidin. C'est quoi le premier? Wujuh Yawmaidin Khashia, les gens qui auront le visage humilié. Et Wujuh Yawmaidin Na'im, les gens qui auront le visage épanoui. À nous de voir, on veut être dans quel camp. C'est clair. Si quelqu'un vous dit, écoute, là, on a l'entreprise. Il paye 3000 euros par mois le travail, là on a l'NPE. Vous savez, ça va. Ben, ça, tout de suite, c'est clair ça. Et quand tu es fonctionné, tout le monde dit non, je vais travailler, je vais faire l'NPE. Pareil. Il y a les gens de droite, et il y a les gens de gauche, deux catégories. C'est pas que je me réveille avec les gens de droite comme ça, en disant non. C'est l'ISAIHA. Par rapport au SAI, par rapport au chemin parcouru, c'est en fonction du chemin que je parcours que j'aurai ma destination. Ça, mes chers frères, il faut bien comprendre. Quand on explique c'est quoi les bienfaits du paradis, c'est quoi les châtiments de l'enfer, je dois bien comprendre que ce n'est pas qu'Allah, il a pitié de moi, il me met dans le paradis, ou qu'Allah, hein, il va me juger de manière très dure, il me met dans l'enfer. Non, c'est Allah, Allah, il vous juge en fonction, Allah nous juge en fonction des années qu'on a passées, comment on a passé ces années, soit j'obéis à Allah, soit je fais ce que je veux. Je peux suivre le mode de vie occidental. Hein, la liberté sexuelle, l'épanouissement, les premiers rapports à 15 ans, il n'y a pas besoin de se marier, on a le droit de faire ci, de faire ça. Je vis comme je veux, comme les occidentaux qui ne croient en rien du tout, qui ne croient que au plaisir. Ceux qui prennent leur passion comme leur divinité. Voyez. Mais après, les conséquences, c'est Wujuh Yawmaidin Khashi'a. Donc, à nous de choisir qu'Allah nous accepte. On va se limiter à ces 30 minutes. Et on n'a pas trop progressé. Inch'Allah, c'est des paroles qui seront Inch'Allah profitables, qui pénètrent mon cœur et le cœur de chaque personne ici présente et qui nous permet de réfléchir et de faire la relation. Et ça, le gros problème. Souvent, on ne fait pas la relation entre ce que je fais et les conséquences. Ce n'est pas je fais namaz pour namaz. Ce n'est pas je ne bois pas de l'alcool parce qu'il n'est pas bon. Non, je ne bois pas l'alcool parce que ce n'est pas bon, parce qu'Allah ne veut pas. Si je le bois, il y aura telle conséquence. Tandis que si je m'en abstiens, Allah sera satisfait de moi. Et l'étape suivante, c'est que si Allah est satisfait de moi, qu'est-ce qu'Allah me donne? Je ne fais pas namaz parce que mais les musulmans, il faut faire. Ce n'est pas qu'il faut faire. Je le fais parce qu'Allah veut que j'accomplisse namaz. Et Allah aime me voir faire son adoration. Et si Allah aime me voir faire son adoration, Allah sera satisfait de moi. Et si Allah est satisfait de moi, Allah m'accorde telle ou telle chose. Il faut qu'on voit plus loin, on se fixe des objectifs à long terme pour qu'on ait le courage et l'envie d'accomplir les bonnes actions. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, vendredi prochain, fais doa qu'Allah nous donne shifa kamila. On peut reprendre les programmes hein, de manière plus régulière, Inch'Allah. On va voir ces versets-là. Fi jannatin aliya la tasma'u fiha la'riya. Ça fait 4 ou 5 versets qui expliquent, qui décrivent quels sont les bienfaits du paradis. Qu'Allah fasse notre tawfiq de comprendre, mes chers frères, ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique. Ça, si c'est juste pour écouter, on a écouté, on a eu des bénédictions des malaïkas, c'est bien. Mais si on ne met pas en pratique, on n'a rien profité réellement. Je m'expliquais tout à l'heure, à Yom al-Jum'a, quand le Prophète m'explique que ceux qui aiment rencontrer Allah, Allah aime les rencontrer. Ça va dire au Prophète d'Allah. Ben donc, on est tous perdus. Parce que personne n'aime mourir. On n'aime pas, on n'a pas envie de mourir. Et ça, ça fait partie de la plupart de la nature humaine. On ne veut pas mourir, on a peur de la mort. C'est normal, ça, dans un certain sens. Et le Prophète m'explique, non, ô Aïcha, le hadith vous dit telle chose. Et les ulama, ils se regardent, le sahaba, comment il donne de l'importance à la compréhension et dans quel but de faire un mal. Parce que pour eux, il a dit, ah, je ne peux pas mettre ça en pratique, c'est trop dur parce que moi, je n'ai pas envie de mourir. Donc, je ne ferai pas partie des gens qu'Allah aime rencontrer. C'est-à-dire que quand ils écoutent là, ce n'est pas juste pour écouter un bayan, c'est pour immédiatement mettre en pratique. Comme une fois, on avait expliqué notre histoire de deux jeunes, du prophète d'Allah, hein, concernant le destin, si tout a déjà été écrit par Allah, donc à quoi servent les actions, etc. Et le prophète m'explique à ces jeunes quelle est la relation entre mon agissement et le destin, la relation qu'il y a entre les deux. Et les deux jeunes, ils ont dit, oh prophète d'Allah, ils ont na'mal. Donc, à partir de maintenant, on va faire les bonnes actions. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de philosopher. Le but, ce n'est pas de débattre. Le but, ce n'est pas de faire des conférences. De poser des questions, de répondre. Non, le but c'est de poser des questions pour comprendre et pour mettre en pratique. On écoute, on comprend et on fait un mal. C'est ça l'objectif. Qu'Allah nous accepte. Mes chers frères, pensez à notre collègue dans vos doigts. On a un de nos collègues, un de nos alim, qui est dans un état assez difficile, qui est hospitalisé depuis maintenant un mois à Saint-Pierre. Faites doigt qu'Allah Ta'ala lui accorde la santé et que cette personne puisse retrouver sa vie de famille, que cette personne puisse retrouver son activité professionnelle et qu'Allah l'utilise encore et encore jusqu'à son dernier souffle pour le khidmat de son dîn. Wa man tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.